Oui, donc je vais vous faire un exposé des grandes lignes de ces 15 ans de suivi de la circulation de parasites zoonotiques, donc dans ce projet de zone atelier environnementale rurale en Argonne. Et tout de suite, donc les parasites zoonotiques sont des parasites qui sont responsables de zoonoses. Et les zoonoses, on peut les définir en fait comme des maladies, infections ou infestations parasitaires dont l'agent pathogène circule naturellement entre les populations animales et humaines. Pour notre part, nous avons travaillé donc sur deux parasites zoonotiques qui sont Echinococcus multilocularis, dont a parlé déjà Patrick juste auparavant, et Toxoplasma gondii. Ces deux parasites ont en commun en fait d'avoir des cycles complexes qui font intervenir un hôte définitif, l'environnement, un hôte intermédiaire et l'humain comme hôte accidentel. Le parasite, en fait, effectue sa reproduction sexuée dans les intestins de l'hôte définitif. Donc là, il s'agit de canidés, ça peut être renard ou chien pour Echinococcus, et de félins, donc notamment le chat domestique pour Toxoplasma. Cette reproduction sexuée produit des œufs ou oocystes qui se retrouvent dispersés dans l'environnement avec les fesses des hôtes définitifs parasités. Ils sont microscopiques, très résistants dans l'environnement et ils se retrouvent donc sur le sol ou les végétaux. Le parasite poursuit son cycle de développement lorsqu'il est ingéré par un hôte intermédiaire dans lequel il peut s'enkyster. Pour Echinococcus, l'hôte intermédiaire est généralement un rongeur et notamment les campagnols aussi qu'évoquait Patrick juste auparavant, c'est-à-dire le campagnol terrestre, le campagnol des champs. Pour Toxoplasma, par contre, l'hôte intermédiaire, ça peut être n'importe quel animal à sang chaud, c'est-à-dire tous les mammifères et oiseaux. Et ensuite, le parasite, en fait, finit son cycle de développement lorsque l'hôte intermédiaire infecté est consommé, en fait, par un hôte définitif, hein, ici. Et l'humain intervient, en fait, dans ce cycle comme hôte accidentel parce qu'il est comme l'hôte intermédiaire, en fait, il peut aussi s'infecter en ingérant accidentellement des œufs ou oocystes qui sont présents au sol ou sur les végétaux. Sauf que, à la différence d'un autre intermédiaire, normalement, il n'est pas amené à se faire manger par un canidé ni un félidé. Donc, il est, en fait, une impasse parasitaire. Pour Echinococcus, comme pour Toxoplasma, il y a d'autres voies de contamination, mais en fait, on verra là où on se concentrera juste sur la contamination via les végétaux, hein, les fruits, légumes et le sol. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que Echinococcus multilocularis est responsable de l'échinococcose alvéolaire, qui est une zoonose rare, mais grave parce qu'elle peut être mortelle, et qui est donc classée au premier rang des zoonoses parasitaires préoccupantes en Europe. Et Toxoplasma gondii est responsable de la toxoplasmose, qui, elle, est une zoonose très répandue, généralement asymptomatique, mais qui est grave lorsqu'elle concerne les femmes lors de leur grossesse et aussi pour les personnes immunodéprimées. En plus, la toxoplasmose provoque aussi des avortements dans les élevages caprins et ovins, notamment. Donc, en fait, sa prévention est à fort enjeu en santé publique et vétérinaire. Il y a aussi, d'ailleurs, pour la toxoplasmose, des conséquences sur des problèmes de conservation sur certaines espèces d'animaux sauvages. La prévention de l'échinococcose alvéolaire et de la toxoplasmose, en fait, nécessite en fait de bien connaître la dynamique de transmission des parasites qui en sont responsables dans leur milieu naturel. Et donc, elle s'inscrit en fait dans une approche One Health, c'est-à-dire dans une approche coordonnée, collaborative, interdisciplinaire et transversale, pour lesquelles la santé des humains, des animaux et des écosystèmes sont étroitement corrélées. Cette approche est au cœur aussi du projet de zone atelier environnementale rurale en Argonne, dont le territoire est situé ici, là, c'est au nord-est de la France, donc ça couvre environ 3 000 km². C'est un secteur un environnement rural avec une faible densité humaine, donc caractérisé par une mosaïque de grandes forêts, de bocages, avec des pâtures et des vallées et prairies alluviales. La Zargue comprend 4 sites-ateliers, le projet Zargue, et c'est aussi sur ce territoire qu'a vu naître en 1999 le Centre de recherche et de formation en éco-éthologie, sachant que l'éco-éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux en relation avec leur environnement. C'est le CERF donc, auquel je suis rattachée. De 1999 à 2010, ce CERF était un service de la communauté de communes de l'Argonne-Ardennaise. Et depuis 2010, c'est un plateau technique de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Dès sa création, le CERF a eu comme thématique, un des thèmes d'étude était l'utilisation de l'espace et des ressources par les carnivores, notamment renards et chats. Donc nous avons été amenés à nous intéresser tout naturellement à la dynamique de transmission des Echinococcus multilocularis en milieu rural. Et ensuite, à partir de 2005, mon rattachement à l'unité épidémiosurveillance et circulation des parasites dans les environnements de l'Université de Reims, qui est centre national de référence sur la toxoplasmose et qui gère le centre de ressources biologiques sur le toxoplasma, m'a aussi amené donc à travailler sur la dynamique de transmission de Toxoplasma gondii en milieu rural. Et le suivi de ces deux parasites s'est effectué donc sur ce secteur qui est inclus dans la ZARG. Il a nécessité la mise en place de nombreuses collaborations avec des équipes, des unités universitaires comme le DEPE de Strasbourg, le laboratoire chrono-environnement de Besançon, le LBBE de Lyon, le laboratoire de parasitologie de Limoges, une équipe d'Aix-Marseille, le CEF à Montpellier, mais aussi le CBGP de l'INRA Montpellier, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ANSES avec son antenne de Nancy qui est spécialisée sur Echinococcus, l'entente interdépartementale de lutte contre les zoonoses, le département de modélisation écologique de Leipzig en Allemagne, une association qui est le CRO et un prestataire de services EcoData Design. Toutes ces collaborations ont conduit finalement à l'encadrement de 9 thèses de doctorat et une production scientifique régulière pour laquelle on s'est intéressé, en fait, si là, je ne sais pas si c'est le plus pertinent, mais en tout cas, j'avais pris l'ordre du cycle de développement des parasites. Donc, on a travaillé en fait sur la prévalence chez les hôtes définitifs, notamment à partir d'une collecte de cadavres de renards et de chats qui ont été autopsiés, sur lesquels on a pu prélever des organes et des sérums, faire des analyses donc biomoléculaires pour identifier spécifiquement les chats, puisque sur le territoire, il y a du chat domestique, des chats forestiers, mais aussi leurs hybrides, et détecter le échinococcus dans les intestins de renards. On a aussi effectué des captures de chats, chats forestiers, chats domestiques, hybrides, fait des prises de sang, appliquer des tests modifiés d'agglutination pour rechercher les anticorps contre toxoplasma. Et au final, on a pu voir, d'une part, que ces deux parasites circulent bien sur le territoire de la ZARG, puisque 53% des renards analysés étaient porteurs d'échinococcus, 63% des chats étaient séropositifs. Il n'y avait pas de différence entre chats forestiers, chats domestiques et hybrides pour ce qui est du portage d'anticorps contre toxoplasma gondii. On a vu aussi que la prévalence de toxoplasma était corrélée avec la densité des fermes laitières. En fait, les fermes laitières sont des endroits où il y a souvent beaucoup de chats qui sont présents. Elle est aussi corrélée avec des hivers donc froids et humides qui sont probablement propices à la conservation des oocystes dans l'environnement. Et on constate aussi d'importantes variations saisonnières et interfermes du taux d'exposition des chats à toxoplasma sur la ZARG qui sont possiblement liées à des variations en fait, de ferme à ferme du taux de prédation des chats sur les rongeurs ou oiseaux. On s'est intéressé, donc, pour continuer le cycle, à la distribution spatiale des fesses de renards et chats, faisant des parcours pédestres réguliers dans différents types d'environnements pour collecter des fesses de carnivores qui ont été identifiées par biologie moléculaire. On a fait de la modélisation aussi pour voir un peu comment pouvait évoluer le parasite. Et fait des analyses de données de photos et vidéos pour voir l'utilisation des zones de défécation des chats. Et les résultats ont montré que la densité de fesses de renards était élevée dans les lisières de végétation moyenne, qui sont l'habitat privilégié des hôtes intermédiaires d'Echinococcus, et ce qui permet en fait le maintien du cycle, même quand ces hôtes sont en faible densité, sont rares. Que les densités de fesses de chats et de renards sont élevées dans les jardins potagers, ce qui pose problème puisqu'en fait, là, il y a un risque de contamination humaine. La présence de fesses dans ces jardins potagers est liée à leur accessibilité mais aussi à la densité de rongeurs, à la composition du paysage autour du potager et notamment à la proximité de vergers et de fermes, fermes laitières. Et pour ce qui est des fermes, l'analyse de données, de plusieurs données a permis de montrer notamment que la distribution des fesses de chats dans les fermes était liée à la localisation des points de nourrissage des chats, en fait, de l'endroit où on leur donne du lait, des croquettes, en fait, concentre. On a tendance, cet endroit a tendance à concentrer notamment les chatons qui viennent là, qui défèquent aux alentours et qui sont responsables d'une bonne partie de la contamination ensuite parasitaire de l'environnement. Car on s'est intéressé bien sûr à la contamination de l'environnement en faisant des échantillonnages stratifiés de sol dans les villages et périphéries, les fermes, les jardins potagers. Ces échantillons de sol, on a appliqué dessus des flottaisons, on a récupéré les surnageants, fait de l'extraction d'ADN et des qPCR, ce qui a permis de constater qu'il y avait de la contamination des sols par Toxoplasma gondii avait tendance à décroître avec l'éloignement aux villages et fermes, qui sont en fait des lieux de forte activité des chats. Et dans les fermes, par contre, la contamination des sols par Toxoplasma, elle n'était pas limitée aux crottiers, hein, aux endroits où les chats vraiment ont l'habitude, on trouve beaucoup de crottes de chats, mais par contre qu'elle était liée à la dynamique de leur utilisation. Et actuellement, on est en train d'analyser la distribution spatiale et temporelle de la contamination des sols des potagers par nos deux parasites d'intérêt. Pour continuer le développement du cycle, en fait, on s'est donc intéressé aussi aux hôtes intermédiaires, notamment rongeurs. Donc, on a fait des piégeages de micro-mammifères prairiaux, forestiers et commensaux qui ont été autopsiés. On a notamment prélevé les organes sur lesquels il y avait des kystes possibles d'échinococcus et des sérums. Là, à nouveau, utiliser la biologie moléculaire pour identifier spécifiquement les rongeurs et confirmer en fait la présence ou non du parasite, et des tests modifiés d'agglutination pour détecter les anticorps. Donc, on a pu voir que les micro-mammifères souterrains, c'est-à-dire ceux qui ont des mœurs souterraines, les campagnols terrestres et les taupes, par exemple, sont plus exposés à Toxoplasma gondii que les rongeurs de surface, hein, comme les campagnols des champs, campagnols agrestes et les mulots. La proximité avec les fermes d'élevage laitier est un facteur de risque d'exposition des rongeurs à Toxoplasma gondii. Et la fréquentation de potagers est aussi un facteur de risque d'exposition des rongeurs à Echinococcus et Toxoplasma. On a aussi donc regardé maintenant, pour continuer toujours notre boucle, l'infection des hôtes définitifs en s'intéressant au régime alimentaire de ces hôtes, hein, renards et chats, à partir de l'identification de restes de proie dans les fesses et contenus stomacaux, et que ce soit par observation macro, microscopique ou par le métabarcoding. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, les campagnols des champs et campagnols terrestres, qui sont, hein, je le rappelle, des hôtes intermédiaires principaux de Echinococcus, sont aussi les proies principales des renards et des chats domestiques. Alors que les chats forestiers, dont parlait tout à l'heure Patrick, consomment plus de rongeurs forestiers. Mais ces deux campagnols, campagnols des champs et campagnols terrestres, sont très consommés toute l'année, même lorsque leur abondance relative est faible. Et on voit aussi, pour ce qui est de Toxoplasma, que le taux de prédation est vraiment une variable importante pour comprendre la dynamique d'infection des chats par Toxoplasma gondii en milieu rural. Ces données, en fait, les différentes données qu'on a pu accumuler sont publiées, mais elles peuvent aussi en fait, être bancarisées maintenant dans le projet de ZARC et puis être accessibles pour d'autres zones ateliers de ce fait. Donc là, on peut avoir, en fait, sur les carnivores qu'on a suivis et micro-mammifères, des données qui sont de dynamique de population, densité relative, d'âge, sexe ratio, natalité, mortalité. On a aussi des données d'écoéthologie sur l'amplitude de déplacement, superficie d'air d'activité, distribution de fesses et régime alimentaire. On a des données, bien sûr, de prévalence et de portage parasitaire, parfois de taux d'infection. On a aussi quelques échantillons de sang et organes. Et pour l'environnement, on a des données sur la contamination parasitaire des sols et on est en train de traiter en fait des données sur ce qui concerne l'eau et les végétaux. Parallèlement, pour avoir tous ces types de données, on a aussi un développement technique qui était associé, notamment des tests de performance et de précision de colliers GPS et logueurs. On a testé la validation d'utilisation d'appâts marqués, on fait des expérimentations pour connaître le temps de survie des oocystes dans des sols humides et secs, développer des méthodes de détection des parasites dans les fesses et le sol, et de participer au développement de l'utilisation du métabarcoding pour le régime alimentaire de carnivore, pour estimer le régime alimentaire de carnivore. Et enfin, même si ce n'est pas directement dans le territoire défini par Lazare, mais juste à sa limite, on a aussi commencé, et on espère le poursuivre un peu, une collaboration avec nos amis des sciences humaines concernant en fait la perception de l'échinococcose alvéolaire par les personnes qui sont sur les territoires concernés, des Ardennes et de la Moselle. C'était dans le cadre d'un projet d'études des Master 1 Urbanisme et Environnement Aménagement qui ont été encadrés par nos collègues Karine, David et Elodie ici, avec un support technique et financier de l'entente de lutte interdépartementale contre les zoonoses, qui a permis de montrer un peu, on a pu voir comme ça, qu'une personne sur deux, par exemple, sur ces territoires avait entendu parler de la maladie du renard, donc l'échinococcose, avec des niveaux de connaissances assez différents selon les milieux, mais par exemple, les chasseurs le connaissent très bien. Et il y a de façon générale une attente d'information à ce sujet, malgré, ceci dit, une certaine défiance des institutions. C'est là juste un tout début d'étude qui, à mon avis, il faudra continuer à travailler là-dessus. Et en perspective, il y a probablement aussi à l'avenir à envisager justement des collaborations fortes avec nos collègues des sciences humaines pour essayer aussi de comprendre un peu mieux ce qu'il en est de la perception, enfin de la toxoplasmose sur notre territoire rural, notamment puisqu'il y a un fort rôle en fait des fermes laitières dans le maintien et la dynamique du parasite sur ce type d'environnement. Là, vous avez les références des articles cités et je vous remercie de votre attention.